Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, grâce à Mzati à la présentation.
À la une de l'actualité ce soir, Philippe Akamitu Nandolo est le nouveau gouverneur de la province d'Ikwilu. Il a été élu cet après-midi par les députés provinciaux au cours de l'opération de vote organisée à l'Assemblée provinciale à Bandundouville. 16 candidats gouverneurs, dont deux femmes, étaient en lice pour ces postes de l'exécutif provincial. 2500 nouveaux magistrats nommés mardi par ordonnance présidentielle. Il s'agit du dernier lot parmi les 5000 magistrats recrutés en 2022. Les syndicats de magistrats se disent satisfaits de ces nominations qui interviennent après de nombreuses pressions et manifestations de ces magistrats. Notre invité est le directeur général de l'École nationale d'administration ENA, Tombola Mouké, affirme que plus de 700 jeunes cadres universitaires déjà mis au service de l'administration publique congolaise en l'espace de 8 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le député provincial Philippe Akamitu Nandolo vient d'être élu gouverneur de la province d'Ikwilu. C'est après les résultats provisoires à l'issue des élections du gouverneur et sénateur et des sénateurs de cette province organisées ce mercredi à Bandundouville. S'agissant des élections sénatoriales, le député provincial Papi Labila Lankim vient à la tête avec 9 voix. Il est suivi par les députés provinciaux et anciens gouverneurs du Kwilu Willy Itundala Hassan qui en a obtenu 6 et le sénateur honoraire de la législature passée Jean-Philbert Mabaya qui a eu 6 voix également. Et enfin, Madame Marianne Bakieli, quant à elle, a récolté 5 voix. Ces 4 premiers sont donc élus sénateurs du Kwilu d'après les dépouillements. Au total, 47 députés provinciaux ont pris part au vote. Il nous faut transcender nos clivages partisans à la suite des élections de 2023 pour une cohésion forte, un réaménagement technique du gouvernement actuel et un sursaut patriotique des amis de l'opposition politique pour vaincre tous ensemble le combat de l'agresseur rwandais. Ce sont là quelques recommandations de Constant Mutamba reçues hier aux consultations politiques par Eberhan Kolongele. Toujours dans ces mêmes cadres, l'ancienne candidate à la présidentielle de 2023, Marie-Josée Ifoku, a donné ses propositions aux consultants désignés par le chef de l'État. Toutes ces propositions et recommandations, c'est dans cet élément que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Consulté en qualité de président du regroupement politique dynamique progressiste et révolutionnaire d'IPRO et leader de l'opposition républicaine, Maître Mutamba estime qu'il est impératif que la problématique du partage des postes soit momentanément écartée.
À l'état actuel des choses, le peuple congolais attend que nous puissions, nous acteurs politiques, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, trouver définitivement des solutions structurelles aux problèmes d'insécurité. Et non apprendre que nous nous réunissons pour que 50% des membres du gouvernement soient accordés à l'opposition, 50% à la majorité ou 40 ou 20 sociétés civiles. Ça, on va une fois de plus retomber dans les mêmes erreurs du passé.
Marie-Josée Ifoko va presque dans le même sens en insistant qu'il n'est pas du tout profitable à la nation de rester derrière les guéguerres habituelles.
Aujourd'hui, il ne s'agit pas du président de la République. Aujourd'hui, il s'agit de notre territoire qui est en train d'être arraché entre les mains de l'ennemi. Tout le monde devrait se surpasser aujourd'hui et accepter qu'on puisse asseoir à une même table, pouvoir discuter, même si à négocier, il faudrait négocier. D'ailleurs, parmi nos propositions, nous avons même demandé encore la création d'une institution d'appui à la démocratie et permettre à ce qu'il y ait un dialogue permanent entre politiciens congolais, la société civile. Je crois qu'il y a confusion de fois. Les gens pensent qu'en venant répondre à cette invitation-là, viennent aider un homme. Allons-y, allons au-dessus de là.
Signalons que la plupart des délégations reçues jusque-là insistent unanimement qu'il est temps de fédérer les forces pour parvenir à vaincre l'ennemi et construire un Congo plus fort.
Nous l'avons dit dans les titres, le président de la République a nommé hier par ordonnance présidentielle 2500 nouveaux magistrats. Il s'agit du dernier lot parmi les 5000 magistrats recrutés en 2022. En 2023, il y a eu un premier lot de 2500 nommés et affectés. Ceux qui viennent d'être nommés attendaient depuis 2024. Ces nominations interviennent aujourd'hui après de nombreuses pressions et manifestations de ces magistrats qui accusaient le Conseil supérieur de la magistrature de bradage de leurs dossiers. C'est un motif de satisfaction et de joie dans les rangs des magistrats à travers leurs syndicats, comme nous le dit ici Jeff Ngoy.
L'intersyndicale des magistrats de la RDC pense que ces nouvelles nominations viennent combler la carence constatée dans nombreux tribunaux et décriée par les organisations de la société civile. Le président de l'intersyndicale, Gaël Yombo-Wété.
C'est avec volupté que l'intersyndicale des magistrats accueille la nomination de magistrats récemment nommés par les présidents de la République. Cela traduit la vision du magistrat suprême et chef de l'État de pouvoir rendre effectif et efficient l'instauration de l'état de droit sur toute l'étendue de la RDC. Vous savez, nous ne pouvons pas parler de la justice, nous ne pouvons pas parler de l'instauration de l'état de droit sans pour autant qu'il y ait des animateurs qui puissent l'accompagner. Raison pour laquelle nous estimons que ces lots importants de magistrats récemment nommés vient renforcer l'effectif du pouvoir judiciaire. Nous estimons que le Conseil supérieur de la magistrature, à travers son organe de gestion, qui est le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, va déployer ses magistrats au niveau de différentes provinces.
Selon le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les prochaines étapes concernent la formation pour 3 mois de ces magistrats à Kinshasa, puis leur déploiement. Pour cela, le CSM dit attendre des fonds nécessaires à ces deux préalables.
Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les coordinations de la société civile, les mouvements citoyens et groupes de pression de Beni, Butembo et Lubero rejettent l'idée de retrait envisagé des forces ougandaises UPDF du territoire des Lubero. Cette position a été exprimée hier lors d'une réunion tenue au centre des lectures et d'animation culturelle CLAC à Butembo. Selon des sources militaires, des discussions sont en cours entre les FARDC et les UPDF en vue de ces retraits avec un possible redéploiement en Ituri afin d'empêcher les rebelles ADF de s'y regrouper. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
Au sein de la société civile, on dit craindre qu'un retrait de l'armée ougandaise des Lubero ne favorise l'avancée du M23 AFC vers Lubero Centre, Butembo et Beni. Pour ces structures citoyennes, si ces retraits avaient lié, les opérations conjointes FARDC-UPDF devraient cesser partout. Pépin Kavota est le président de la société civile de Beni.
Au gouvernement de respecter ses engagements dans les opérations Soudja. S'il est vrai que le retrait des UPDF dans les Lubero est envisagé, alors cela doit être effectif dans toutes les zones où ils interviennent dans le cadre des opérations Soudja.
Pour sa part, le maire de Butembo, le commissaire supérieur Roger Baïkiteli, dément cette information et rassure.
Je tiens à vous préciser que les opérations conjointes FARDC-IPDF poursuivent leur bonhomme de chemin et c'est jusqu'à preuve du contraire. Ces éléments de l'armée ougandaise travaillent en franche collaboration avec nos services de sécurité.
Depuis février, l'armée ougandaise, en position défensive avancée, a renforcé sa présence à Lubero et Butembo. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, la situation demeure volatile cet après-midi au chef-lieu du territoire du Walikale. Toute la matinée, des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dans les localités environnantes, indiquent certains cadres locaux joints sur place. C'est en particulier dans les villages Ngora, Wenga et Mutakato sur l'axe Walikale-Goma. Pour ces sources, alors que les rebelles du M23 AFC ne sont plus visibles dans plusieurs coins de Walikale Centre, quelques combattants VDP Wazalendo ont fait leur entrée dans la cité en milieu de journée en tirant des balles en l'air. Ils seraient répartis quelques minutes après vers une destination inconnue. Nos sources ajoutent que ce mercredi après-midi, des tirs étaient encore entendus dans les environs de Walikale Centre. Elles pensent qu'il s'agirait d'accrochages entre les rebelles du M23 qui ferait mouvement vers Goma contre les combattants indiciens rénovés des Guidon Mouissa qui se déploient toujours dans ces villages. Dans la foulée, le président de la coordination de la société civile de Walikale plaide pour l'assistance de la population de cette entité, aussi bien celle restée sur place que des déplacés se trouvant à Kisangani. Ce plaidoyer est motivé par des conditions tant sécuritaires qu'humanitaires qu'il qualifie de calamiteuses. Fiston Misona, président de cette structure citoyenne, demande également aux autorités compétentes de la Tchopo d'identifier les déplacés afin de les assister et de les sécuriser, car nombreux sont ceux-là qui seraient victimes des tracasseries. Fiston Misona est au micro de Jacques Moukonkole.
Les arrestations arbitraires, il y a également la précarité sur le plan de la prise en charge de tout ce monde-là. Les enfants qui seraient avec leurs parents dans des zones de déplacement n'étudient pas et d'autres restent galeries. Vu cet état des choses, nous demandons au gouvernement congolais, avec ses partenaires, de venir en aide à cette population victime des affres de la guerre dans la province du Nord Kivu, en général, en particulier dans les territoires de Walikale. Que les services de sécurité et aussi humanitaires de Walikal vers Kisangani, celles-là qui seraient à Kisangani puissent être bien sécurisées, identifiées, afin de voir comment est-ce que cette population peut trouver de l'assistance quant à ça. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, actuellement dans la province de la Tchopo, nous sollicitons au gouvernement provincial de la Tchopo de faire dans l'urgence, si possible, donc, de voir comment est-ce que cette population peut trouver de l'assistance quant à ça. Mais également, de bien sécuriser cette population, car nous sommes tous Congolais et nous avons le droit de la protection en tant que Congolais dans notre pays.
Signalons que beaucoup de déplacés en provenance de Walikale sont arrivés à Kisangani depuis 2 semaines, fuyant les atrocités qui seraient commises par les rebelles du M23 dans leur entité. Situation sécuritaire dans la partie ouest du pays cette fois-ci, malgré les efforts conjugués par le gouvernement congolais pour mettre fin aux violences des miliciens Mobondo dans l'espace Grand Bandundu, ces derniers continuent d'opérer en tuant des pauvres civils dans ces coins du pays. Dans la matinée de mardi, ces miliciens Mobondo ont massacré et égorgé à la machette au moins 13 personnes à la ferme Kabiala, à près de 7 km du village Mayala, dans les territoires de Bagatao Kwilu. L'armée qui livre l'information dit avoir pris le contrôle de la situation et continue les opérations dans la contrée. C'est ce que nous dit Irène Bomaluzolo.
D'après les porte-parole de l'opération Ngemba menée par la 11e région militaire au Grand Bandundu, cette nouvelle incursion de la milice Mobondo a eu lieu mardi dans la ferme Kabiala au secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata dans la province du Kwilu. Le capitaine Anthony Mwalushai parle du bilan encore provisoire de cette attaque.
Un groupe de miliciens Mobondo lourdement armés a mené une incursion meurtrière. Le bilan provisoire fait état des 13 civils froidement égorgés à la machette par ces insurgés.
Après avoir été alertés, les forces armées de la République ont mené une opération d'intervention. Le capitaine Mwalushai.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont rapidement intervenues, neutralisant 5 assaillants et récupérant des armes de guerre ainsi qu'un lot de machettes. Lors de ces affrontements, un soldat congolais a été mortellement touché par balle.
Pour l'armée, ces nouvelles violences des miliciens témoignent leur détermination à continuer avec leur sale besogne, malgré les initiatives du gouvernement congolais en faveur de la restauration de la paix au Grand Bandundu. Toutefois, les FARDC se disent aussi déterminés à poursuivre ces miliciens jusqu'à leur dernier retranchement. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Un mot sur cette affaire de la mort du policier des roulages décédé lundi à Kinshasa. La première ministre exprime son profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir notre pays, note-t-elle. Dans un communiqué de son cabinet signé hier mardi, Judith Suminwa rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie d'office et une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite autour des circonstances du décès. Elle appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la spéculation autour du décès du regretté brigadier Fiston Kabeya. Quelques heures avant, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est saisi de l'affaire et a instruit l'auditeur général d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs de cette atrocité. Parlons des infrastructures routières dans la commune de Lemba, ici à Kinshasa, la capitale. Les routes principales se dégradent, de la foire internationale de Kinshasa-Fikine, en passant par Super Lemba, sous-région, jusqu'au rond-point terminus, de nombreux nids de poules sont visibles. La situation est à la base d'importants embouteillages. Les habitants s'en plaignent. Nancy Atambo nous décrit la situation dans ce reportage.
Comme dans plusieurs coins de Kinshasa, dans la commune de Lemba, les routes principales sont devenues impraticables. Les conducteurs de véhicules et motos s'en plaignent.
On a des problèmes avec nos véhicules, des pneus, d'autres matériels dans les véhicules d'habits. Quand vous quittez Limité pour atteindre Lemba vers 16e région, c'est pratiquement impraticable.
Jusqu'à partir des premières portes, il y a beaucoup de trous là-bas. Si tu arrives encore sur bypass, c'est plus grave encore. Nous demandons vraiment à notre gouvernement de réagir le plus vite parce que, en tout cas, ça ne va pas.
Les plaintes viennent aussi des habitants. Bébé Manzila et Rose Munungu expliquent leurs difficultés pour se déplacer.
Nous avons vraiment des difficultés. Tu peux prendre 1 heure du temps pour quitter Lemba Foire et arriver à Super Lemba.
Partout, partout. Tout, il y a des trous.
Et bourgmestre de Lemba, Jean-Serge Foba, affirme mener un plaidoyer justement pour la réhabilitation des routes.
Nous continuons de plaider pour qu'il y ait plus de kilomètres de construits dans notre commune de Lemba, pour que le gouverneur puisse nous aider avec la construction des routes.
Les habitants espèrent en tout cas une solution rapide pour mettre fin à leur calvaire.
Actualité internationale.
En Guinée, la date du référendum constitutionnel est enfin connue. Le général Mamadi Doumbouya a annoncé que le scrutin se tiendra le 21 septembre 2025. Lors de ses vœux du nouvel an, le président de la transition avait déjà souligné que 2025 serait une année électorale cruciale pour les retours à l'ordre constitutionnel. L'annonce intervient alors que le gouvernement vient de recevoir un premier lot de matériel électoral.
L'invité.
Au moins 740 jeunes cadres universitaires sont déjà mis au service de l'administration publique congolaise en l'espace de 8 ans. Le directeur général de l'École nationale d'administration, ENA, livre ces statistiques dans un entretien accordé ce mardi à Radio Kapi. Tombola Mouké explique que son établissement a pour mission de recruter et former pendant 12 mois ces jeunes congolais appelés à assurer le suivi et l'évaluation des politiques publiques en vue de transformer l'appareil administratif. Tombola Mouké répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour.
Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'École nationale d'administration?
L'École nationale d'administration ENA RDC est un établissement public créé le 16 avril 2013 à travers du décret 13013 pour contribuer à doter l'État d'un vivier de fonctionnaires de hauts fonctionnaires compétents et intègres pour permettre de sortir l'État des sentiers battus. L'école a une longue histoire. Elle a commencé par l'École nationale de droit ENDA il y a plus de 60 ans, qui a été supprimée par la suite. Puis il y a une autre initiative en 2001 et puis finalement l'ENA actuelle sous la forme d'établissement public. Tout cela témoigne de la volonté du gouvernement congolais depuis les années d'après l'indépendance de se doter d'un personnel administratif de qualité.
Quel est selon vous, monsieur le directeur, l'apport de l'ENA dans la bonne marche du pays?
Alors, l'école a pour mission principale de recruter et de former de jeunes cadres universitaires et de les mettre à disposition des services publics plus généralement. Ces jeunes universitaires sont formés, ils sont recrutés de manière compétitive, ensuite sont formés pendant 12 mois dans le cadre d'un tronc commun pour être outillés et capables de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Ça fait 8 promotions déjà à ce jour qui sont formées pour 743 énarques mis à la disposition des États employeurs, au cadre de hauts fonctionnaires qui contribuent à aider dans la conception des politiques publiques, qui contribuent à aider à transformer l'appareil administratif, comme j'aime le dire, en un modèle de progrès, un modèle d'excellence.
Vous dites qu'ils sont recrutés de manière compétitive. Quelles sont les conditions d'éligibilité?
Trois conditions essentiellement. D'abord, une condition d'âge, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'État, parce que les élèves recrutés ici ont les statuts de fonctionnaires stagiaires, et l'âge limite pour être recruté agent de carrière des services publics de l'État, c'est 35 ans. La deuxième condition, c'est la nationalité. Il faut être de nationalité congolaise. Et la troisième condition, c'est la formation universitaire. C'est au minimum un bac plus 5, c'est qu'on appelait dans l'ancien système licence. Maintenant, avec le LMD, c'est master.
Quelles sont les matières dispensées tout au long du cursus?
La formation initiale organisée au profit des élèves s'articule autour de 4 axes. Le premier axe, c'est les modules de cours. C'est votre question, je vais y revenir. Le deuxième axe, c'est les séminaires et les conférences. Le troisième axe, c'est les stages. Les élèves en font deux, un stage d'immersion de 2 semaines et un stage de professionnalisation de 3 mois. Et enfin, ils sont soumis à l'élaboration au terme de leur cursus d'un travail des politiques publiques qu'on appelle formation action FORAC. Alors pour revenir au module de cours, c'était votre question. Il y en a 38 dans le cadre du programme actuel qui est en pleine réforme, hein, mais il y a un module d'intégration, puisqu'ils viennent de différentes filières. Toutes les filières peuvent postuler à l'ENA. Il y a un module d'intégration pour permettre de les mettre à niveau, tous, avec un certain nombre de cours, un module management et un module territoire et un module grands enjeux contemporains. Chaque module, c'est en moyenne 10 cours. Et ça fait environ 38 cours au total qui sont dispensés. Ça concerne tous les domaines de la gestion de l'État, les marchés publics, les ressources humaines, la gestion de projet, l'élaboration de politiques publiques, le suivi et évaluation de politiques publiques, la décentralisation, toutes les matières qui concernent la gestion administrative et plus généralement la gestion de l'État.
Quelles sont les garanties pour les jeunes qui fréquentent l'École nationale d'administration?
Tout au long de leur formation, ils sont boursiers parce qu'ils sont recrutés par l'État. L'ambition pour l'État congolais était de rendre le secteur public attractif parce que pour attirer les meilleurs. D'où l'organisation de ce programme de formation initiale avec une bourse qui est accordée mensuellement aux élèves pendant leur formation. Au terme de la formation, ils sont admis sous statut, donc ils deviennent fonctionnaires de l'État. Ils intègrent ce qu'on appelle le corps des administrateurs civils, puisqu'ils intègrent l'administration publique au grade d'attaché d'administration de première classe.
Monsieur Tombola Mouké, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, le directeur général de l'École nationale d'administration ENA s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. 19h20 à Kampene, dans la province du Maniema. C'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Pele Kipelamondo et mis en onde par Mimi Kindou. Vous pouvez les réécouter sur www.radiokapi.net. Merci pour votre confiance à la Radio de la Paix.